Radio Okapi. Journal présenté par Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les Léopards football de la RDC affrontent ce mercredi les Taifa Stars de la Tanzanie dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des poules. Après deux matchs nuls, les Congolais prennent au sérieux cette rencontre pour se qualifier au tour suivant, a déclaré hier mardi le joueur Yohan Wissa lors de la conférence de presse d'avant-match. Quatre regroupements politiques s'unissent au sein d'une alliance dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Il s'agit d'un nouveau mouvement politique membre de l'Union Sacrée qui a pour ambition notamment d'apporter le soutien à la majorité parlementaire mais aussi d'accompagner le gouvernement qui en résultera. L'invité de ce journal est le docteur Alidor Tibandambombo, politologue et ancien bourgmestre des communes de Bumbu, Kinshasa et Mongafula dans la ville de Kinshasa. Il s'exprime sur le rôle et les défis qui attendent les conseillers communaux après la publication hier mardi par la CENI des résultats provisoires des élections communales. Les détails, c'est dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les Léopards football de la République démocratique du Congo affrontent les Taifa Stars de la Tanzanie ce mercredi au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo en Côte d'Ivoire dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des poules de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Après deux matchs nuls lors de la première et deuxième journée, les Congolais prennent au sérieux cette rencontre pour se qualifier au tour suivant de la compétition. C'est ce qu'a déclaré le joueur Yohan Wissa hier mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de l'écouter.
Ce qu'on attend du match, forcément, le coach l'a bien dit, c'est de bonifier nos deux premiers matchs. Maintenant, ça va être un match assez décisif parce que ça va décider de notre aventure de la CAN, notre aventure. Et en tout cas, on a à cœur de faire un beau match et de faire au minimum un point et de gagner. Après, voilà, on part avec l'objectif de gagner tous les matchs, donc on est des compétiteurs. Donc, on va faire le maximum.
Quatre regroupements politiques dont Action des Alliés et UNC, Alliance des Acteurs Attachés au Peuple AAP, Alliance Bloc 50A/B50 et Coalition des Démocrates Code s'unissent au sein d'une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo Retrouvé, PCR en sigle. Après l'accord signé lundi 22 janvier, ce nouveau mouvement politique membre de l'Union Sacrée pour la Nation a été présenté hier mardi devant les médias et les sympathisants des divers partis, les constituants. À en croire ses leaders, notamment Vital Kamerhe, Tony Kankouchikou, aux représentants de l'autorité morale de l'Union Sacrée, Julien Paloukou et Jean-Lucier Boussa. Cette nouvelle force politique a pour ambition notamment d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, mais aussi d'accompagner le gouvernement qui en résultera. Écoutons à ce sujet Vital Kamerhe, président de l'UNC, au micro de Billy Ivan Lutumba.
Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, plus de 700 députés provinciaux, est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de l'Union Sacrée de la Nation? Disons non. Ce que nous venons de faire, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union Sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment, c'est calme, c'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple congolais.
Notez par ailleurs que les regroupements rassemblés au sein du pacte pour un Congo retrouvé déclarent accepter l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes au niveau du pouvoir central et au niveau infra-étatique. Et dans le même chapitre, lancement hier mardi à Kinshasa du réseau Parvenir qui rassemble les jeunes cadres des partis politiques tant de l'opposition que du pouvoir. Ces jeunes réclament les renouvellements de la classe politique. Selon eux, les conditions de vie des Congolais qui laissent à désirer obligent à une prise de conscience totale dans le chef de la jeunesse. Ils disent mettre en place des stratégies pour proposer aux décideurs des personnes nouvelles capables de changer les choses. Dolphe Ndaye, membre du directoire du réseau Parvenir, l'a dit au micro de Blaise Sindani Kambala.
Le sens de notre combat, je pense que nous le retrouvons en premier lieu dans la signification de la compréhension de notre dénomination. Parvenir, oui, parce que nous voulons y parvenir. Parvenir à quoi ? Nous voulons parvenir au renouvellement de la classe politique congolaise. C'est cela le sens premier même de notre combat, de notre lutte. Et nous pensons qu'à côté de ces premiers sens, de ces premiers combats que nous portons, il y a sans doute d'autres outils que nous allons faire accompagner celui-ci. Bon, nous pensons que le premier acteur du changement, c'est d'abord le chef de l'État, suivi de son gouvernement, ainsi que nous tous, peuple congolais. Aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de dire que nous venons pour changer les conditions de vie tout de suite des peuples congolais. Non, nous nous proposons des acteurs, de possesseurs des idées, des personnes qui vont justement permettre que la classe politique congolaise, l'action politique congolaise ait enfin aujourd'hui de nouvelles énergies, de nouvelles idées qui vont travailler pour les changements des vies des Congolais. Nous, peut-être, les autres, pourquoi pas, parce que nous ne parlons pas que de nous ici, les figures devant cette caméra, mais nous parlons de toutes ces énergies, de toutes ces intelligences qui sont en possession des capacités, des compétences pour travailler justement sur les changements des vies des Congolais.
Et toujours dans les volets politiques, le centre de Germain Kambinga demande au chef de l'État Félix Tshisekedi d'initier un référendum pour réviser la Constitution. Ce mouvement politique estime qu'il faut passer à la 4e République et le mandat présidentiel devrait passer à 7 ans. C'était au cours d'un point de presse hier mardi à Kinshasa. Germain Kambinga a aussi énuméré les priorités du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Il cite notamment les modes de scrutin des animateurs à différents niveaux, le financement et l'organisation des élections et la démocratisation des partis politiques. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Il s'y est de noter à ce niveau que nulle part au monde le débat constitutionnel est établi dans la Constitution. Ça n'existe pas. Il y a toujours des pour, il y a toujours des contre. D'ailleurs, faut-il le rappeler ? L'actuelle Constitution était farouchement combattue par certains qui, aujourd'hui, voudraient s'en faire les défenseurs de la Charte. Hier, ils combattaient cette Constitution avant le référendum de 2005. Aujourd'hui, ils en sont les grands défenseurs. Le passage à la 4e République et le changement constitutionnel subséquent sont un impératif qui nécessite absolument une volonté politique. Nous pensons à cet égard que la forte légitimité dont bénéficie le président de la République à la suite de sa réélection représente une occasion unique pour offrir un second souffle au Congo sur le chemin difficile de son émergence. Monsieur le président de la République, osez, le peuple vous suivra.
En bref, la Commission électorale nationale indépendante a publié hier mardi à la télévision nationale RTNC les résultats provisoires des élections communales du 20 décembre 2023. Il s'agit au total de 915 conseillers municipaux de 26 chefs-lieux des provinces de la RDC qui ont été proclamés élus sur plus de 50 000 candidats. Ces scrutins ont été organisés uniquement dans les chefs-lieux. Mais la voie est tracée pour le futur, affirme la centrale électorale. Pour Denis Kadima, président de la CENI, ces élections vont permettre à d'autres pays de renouer avec la démocratie à la base par la participation active des citoyens à la gestion de leur communauté. Notons que c'est pour la première fois depuis 1987 que des élections communales sont organisées en République démocratique du Congo. Mettre en place un agenda devant aider le pays à se doter d'une politique forestière appropriée, c'est l'une des principales recommandations des États généraux des forêts qui se sont clôturés hier mardi ici à Kinshasa. Près de 350 participants, experts et autres personnalités du secteur de l'environnement ont pris part à ces travaux qui ont duré 5 jours. Plus de détails avec vous Blaise Nongala Mayanda.
Venus de tous les coins du pays, les participants à ces travaux ont recommandé la gestion durable des forêts congolaises avec la protection de la biodiversité. Ils ont appelé à la définition des mécanismes appropriés d'amélioration de la gouvernance forestière et à la proposition des axes de renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de l'administration en charge des forêts. Ces séminaristes ont également souhaité voir les secteurs forestiers renflouer les caisses du trésor public pour le bien-être de tous les Congolais. Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'Environnement a remercié tous les participants à ces forums pour la qualité du travail abattu. Eva Bazaïba a ainsi sollicité leur implication dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces forums.
Que le suivi et la mise en œuvre des recommandations formulées ici est l'affaire de toutes les parties prenantes. Nous-mêmes, au sein du gouvernement central, les provinces, les entités territoriales décentralisées, le secteur privé, votre collaboration est précieuse pour réussir les paris de la gestion durable de nos forêts.
Plusieurs partenaires techniques et financiers ont facilité la tenue de ces états généraux des forêts, dont les CAFI, dans le cadre du programme de gestion durable des forêts.
Et plus de 400 tonnes de blé attendues dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, pour cette troisième phase culturelle en cours. Déjà plus de 20 tonnes sont disponibles dans les dépôts à Luofour et Mbois-Vignois, en attente des acheteurs. Cultivée sur une étendue de 192 hectares, cette céréale, qui est dans sa phase expérimentale, a produit un bon rendement, se félicite la COPTA, la coopérative de production et de transformation des produits agricoles, qui encadre les paysans et organisations agricoles dans ce territoire en leur donnant la semence et outils aratoires. Cependant, cette coopérative parle des difficultés pour écouler les blés produits. On écoute à ce sujet Eze Kanendu, président du comité d'administration de cette coopérative. Il est au micro de Denise Loukesso.
Nous comptons produire plus de 400 tonnes de blé à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars 2024. La grande difficulté que nous avons jusque-là, c'est avoir un bon marché et de bonnes routes de desserte agricole en vue de faciliter l'écoulement de nos produits. C'est pourquoi nous tendons encore la main vers les partenaires qui veulent investir dans ce secteur que nous avons déjà des produits prêts à être transformés. C'est ici encore l'occasion pour nous de féliciter l'ICEP pour nous avoir doté une machine batteuse pour faciliter la récolte et nous en sommes très reconnaissants. Actuellement, le blé ne sera plus importé chez nous.
Et toujours au Nord Kivu, près de 400 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans la région de Butembo, Beni et Lubero au cours de l'année 2023. Ces chiffres ont été rendus publics par l'organisation Femmes Engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI en sigle, une ONG nationale basée à Butembo. Les victimes sont en majorité des déplacés. Des détails avec Sadiki Aboubakar.
Ces chiffres sont en hausse par rapport à ceux de l'année 2022, affirme Espérance Masika Kivasia, infirmière, conseillère et présidente de FEPSI. L'insécurité qui caractérise la région en est la principale cause.
Les statistiques sont à la hausse suite à la guerre, aux incursions nocturnes. Il y a des déplacés que nous avons reçus, qui ont été déplacés, mais en même temps victimes de violences sexuelles. Et ce sont des gens qui sont venus de Oicha, de Ringeti, de Kantine.
Quant aux auteurs de ces violences, on y retrouve des hommes en uniforme et des miliciens, mais pas que, ajoute la même source.
La plupart des cas sont des cas qui ont été violés par les ADF, d'autres par des civils. Il y a quelques cas qui ont été violés par des militaires.
Certaines victimes sont tombées enceintes et d'autres ont été infectées par le VIH. Espérance Masika confirme leur prise en charge psychomédicale.
Il y a 36 cas qui nous sont arrivés avec des grossesses issues des viols et 3 cas dont le premier test du VIH est sorti positif.
Tous les cas sont automatiquement pris en charge. Il y a quelques cas référés chez les femmes.
Pour l'année 2023, un homme figure parmi les victimes des violences sexuelles dans la région. C'était aussi le cas en 2022. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En bref, doter la division provinciale de la santé du Kwilu d'un plan opérationnel de communication pour la promotion des interventions de la planification familiale en faveur des femmes en âge de procréer ainsi que des adolescents et jeunes de cette province. C'est l'objectif principal de l'atelier d'harmonisation du plan opérationnel de communication de la planification familiale qui se tient du 22 au 25 à Bandundouville. Les participants à ces assises sont notamment les cadres du secteur de la santé, les partenaires, la société civile et autres. Le souci est de lutter contre la malnutrition dans cette province, a indiqué le chef de la division intérimaire de la DPS Kwilu.
Actualité internationale.
Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est envolé hier mardi au matin pour la Russie dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Il rencontrera ce mercredi le président russe Vladimir Poutine avec au menu des échanges les coopérations bilatérales entre les deux pays, mais aussi les questions régionales. Au Niger, des derniers permis en cours des recherches minières ont été annulés. Une mesure conservatoire suite à un scandale des lingots d'or qui fait grand bruit dans le pays. Une importante quantité d'or sortie frauduleusement de Niamey et en partance pour Dubaï a été saisie à l'aéroport d'Addis Abeba au début du mois. Les Nigériens se demandent à qui appartient cet or et d'où il provient.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Alidor Tiban Dambombo, politologue et ancien bourgmestre des communes de Bumbu, Kinshasa et Mongafula, auteur de la thèse intitulée « Identité nationale en République démocratique du Congo ». Il s'exprime sur le rôle et les défis qui attendent les conseillers communaux. C'est là après la publication hier mardi par la CENI des résultats provisoires des élections communales. Docteur Alidor Tiban Dambombo s'entretient avec Ale Young.
Docteur Alidor Tiban Dambombo, bonjour.
Bonjour, monsieur Hirung.
Les résultats des élections communales ont été publiés ce mardi 23 janvier 2024 par la CENI. Quel est le rôle d'un conseiller communal?
Le rôle de conseiller communal est consacré dans la loi sur le fonctionnement des entités décentralisées, la loi numéro 16/008. De 2008, je crois, qui organise la décentralisation dans notre pays à son article 50. C'est un organe délibérant qui s'occupera de décider sur l'ensemble des matières d'intérêt général au niveau local. Il va se consacrer à l'élaboration du budget et il va assurer le contrôle de ce budget-là. C'est tout un petit parlement qui pourra légiférer entre griffes parce que ce qu'ils vont prendre, ça s'appelle règlement. Ils vont prendre les règlements de police et d'autres règlements liés à la gestion quotidienne de l'entité décentralisée. Donc, ils vont décider sur les destinées de nos communes pour le moment. Le bourgmestre ne pourra plus gérer un électron libre. Maintenant, il y a à côté de lui un organe de contrôle et de décision.
Maintenant qu'il honora les conseillers communaux, pensez-vous qu'avec ces nouvelles entités qui s'ajoutent au budget de l'État, il y aura suffisamment de moyens pour leur permettre de fonctionner normalement?
Je ne suis pas prophète, je ne connais pas ce qui est prévu par le gouvernement central, mais en partant de l'expérience vécue comme ancienne autorité locale, je constate qu'il risque d'y avoir plus de problèmes qu'il y en avait auparavant. Parce que les communes étaient gérées comme des entités sacrifiées. Chaque fois que j'entends parler de l'autorité de l'État, je me disais, mais comment on peut parler de l'autorité de l'État au niveau central, alors qu'au niveau local, il n'y a aucun effort pour renforcer cette autorité par des moyens qu'il fallait donner aux entités de base pour que le développement parte de la base, parce que la volonté du constituant de 2005 ou 2006, c'est que nous étions obligés de commencer le développement à la base à partir de la décentralisation. Mais cette décentralisation n'a pas pu être effective suite à l'absence effectivement des organes issus des urnes. Il fallait nommer, ces nominations posaient aussi beaucoup de problèmes parce qu'on recrutait de n'importe quelle manière, c'était des cadres, des animateurs de base des partis politiques, des copains, des amis, et sans une grande vision sur le devenir et l'avenir de nos entités de base. Mais actuellement, qu'il y a eu des élus, et je crois fort bien que ce sont des véritables élus qui ont des projets pour nos entités de base. S'ils travaillent convenablement et qu'on revoie l'ordonnance loi sur la nomenclature des impôts, taxes et redevances, je crois fort bien qu'il peut y avoir quelque chose de bien. Je profite de votre micro pour déjà faire constater que le mode de choix de Bougou risque de nous amener encore dans des problèmes parce qu'on va consacrer la corruption comme on le ferait pour le choix des gouverneurs et des autres. Il serait souhaitable, c'est ma perception des choses, si on veut bien asseoir la démocratie locale, que les animateurs de l'exécutif local, tant au niveau provincial, soient l'émanation véritable de la majorité dans ce parlement local-là, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale comme le conseil communal. Mais si on va couvrir les élections comme on le ferait pour le gouverneur de bourgmestre, c'est chacun qui va s'aventurer avec ses moyens pour corrompre les conseillers communaux et se faire élire, même s'il n'a pas un projet conséquent pour l'entité concernée.
Pour terminer, en quelques mots, quels sont selon vous les défis qui attendent ces conseillers communaux?
Le plus grand défi, c'est d'abord leur capacité à pouvoir comprendre la technicité de la décentralisation. Et j'invite déjà le gouvernement central de renforcer leur capacité intellectuelle sur les lois relatives à la décentralisation et sur les compétences qui sont les leurs en tant qu'autorité locale. Le deuxième défi, c'est le défi de moyens. On ne transfère pas de compétences sans transférer de moyens. Et puis le troisième défi, c'est les hommes. Au-delà du renforcement des capacités, au-delà de leur niveau intellectuel, c'est les hommes. Sans moyens suffisants, ils vont chercher à aller en Europe, ils vont chercher à rouler carrosse, ils vont chercher à vivre de l'État, à jouir des avantages. Ils auront du mal à mobiliser suffisamment pour faire face aux défis du développement local. Je propose la mise en place du budget participatif, où la société va être impliquée dans les décisions qui vont être prises par les autorités locales pour le bien-être de nos populations.
Merci beaucoup, Dr. Alidor Tiban Dambombo.
Notre invité, le docteur Alidor Tshibandambombo, politologue et ancien bourgmestre à Kinshasa, s'entretenait avec Alain Irung. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté.